Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Ça va bien ce matin? Gloire à Dieu. Cet après-midi, mon épouse et moi, nous allons aller à Rouen pour voir notre frère Michel. Et nous continuons à prier pour lui. Je n'ai pas de nouvelles ce matin et nous en apporterons cet après-midi, ce soir, du moins quand nous rentrerons. Que Dieu bénisse ce couple, les enfants, et dans cette épreuve difficile. Et que tous ceux qui nous écoutent sur Internet prient aussi pour lui. Vous pouvez écouter sa prédication en allant chercher en 2009, au mois de janvier. Il s'appelle Michel Cotefire. J'arrive jamais à lire son nom correctement. Je crois que c'est Cotefire, c'est ça, chérie? Voilà. Et il était venu prêcher ici, et sa femme avait chanté. Voilà, donc ouais, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, et ça nous fait vraiment beaucoup de peine de le voir dans cet état, que Dieu vraiment étende sa main sur lui. Amen. Amen. Autrement, j'ai quelque chose, mon gendre Eric Jacques vient de me dire que c'est la 500e prédication sur Internet. Il y a déjà 500 prédications sur Révélation Bible. C'est magnifique, hein? Ça fait plaisir, Eric. Gloire à Dieu. C'est bon, ça fait du bien. Donc la parole de Dieu est annoncée, et voilà, les gens sont fortifiés. Que Dieu soit béni. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ruth, chapitre 1, versets 15 à 18. Je connais deux Ruth. Une Ruth qui s'appelle Ruth Stettler, c'est une copine d'école, que j'ai retrouvée il y a quelques années quand j'allais visiter, j'allais en Suisse pour voir ma maman, et elle était infirmière là. Ruth Stettler, elle était devenue chrétienne, c'est formidable. Et puis une autre Ruth, c'est la femme de Itiel, vous vous rappelez de Ruth, hein? Voilà, donc je connais deux Ruth. Alors je ne sais pas si elles ont les caractères de cette Ruth-là, mais Ruth Stettler, il me semble, oui. Ruth Dossou, je ne la connais pas assez pour pouvoir dire qu'elle a ce caractère. En général, on dit que les gens qui ont un prénom, ils ont le caractère qui va avec. C'est rigolo, hein? C'est vrai. Adélie Michel, c'est tous des casse-pieds. Voilà. Donc, on lit... Non, ce n'est pas tous des casse-pieds. Donc, c'est des gens qui sont, comme disait Camélia, très personnels. Tu es très personnel. Ben, évidemment, je ne suis pas une autre personne, je suis moi. Et elle disait, mais moi aussi, hein, elle disait, si j'en trouve une deuxième, je la tue pour rester toute seule. Elle était terrible. Hein. Ruth 1, 15, 18. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, je ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais aborder un sujet important. Vous savez que depuis quelque temps, je vous parle au sujet de la foi, mais je voudrais aborder quelque chose qui est rarement traité quand on parle de la foi. C'est du pouvoir de décision, le pouvoir de décision. Naomi était une femme juive, et elle avait suivi son mari au pays de Moab, parce qu'il y avait des problèmes en Israël, elle était partie là-bas, et ils s'y sont fixés, et quelque temps après, Naomi a perdu son mari, elle s'est retrouvée veuve, mais elle avait deux fils, et ces deux fils ont épousé des Moabites, puis sont restés là à peu près encore une dizaine d'années. Mais au bout de 10 ans, voilà que ses deux fils meurent aussi. Et Naomi se retrouve donc avec ses deux belles filles, mais elle décide de retourner finir ses jours dans son pays, en Israël. Elle avait certainement le mal du pays, comme tout le monde, tous les étrangers ont toujours envie de retourner dans leur pays. Alors, elle parle à ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Elle leur dit donc, allez, retournez chez vos parents, allez adorer vos dieux, et puis voilà. Puis elle les bénit, et puis elle pleure un bon coup, et puis voilà que Orpa, elle s'en va. Alors on en est là au moment de la lecture que nous venons de faire. C'est là donc qu'on voit que Naomi parle à sa belle-fille Ruth, et puis que Ruth lui dit, non, 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 où tu iras, j'irai, hein, où tu demeureras, je demeurerai. On peut en faire un chant de ça, hein, c'est magnifique ces paroles. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ça, c'est magnifique. Quelle fidélité, quel engagement, quelle beauté. Et la Bible nous dit que Naomi, voyant sa belle-fille Ruth décidée, cessa ses insistances. Elle a cessé. Ruth, une femme de décision. Voilà le titre de la prédication de ce matin. Ruth, une femme de décision. L'autre jour, j'étais à Paris, dans un magasin de chaussures. Qui n'a jamais été vendeur ou vendeuse de chaussures ne sait pas ce que c'est que de s'énerver après les indécis. Il y avait là un homme qui voulait acheter des chaussures et je devais attendre qu'il ait fini parce qu'il n'y avait qu'une vendeuse. Et alors, il en était déjà à la cinquième paire et il hésitait. Il hésitait terriblement, il demandait à la dame d'en apporter encore deux autres paires. À la dame, très calme, très, c'est son métier, de toute façon, elle s'en fiche, hein. À l'heure, elle s'en va, donc que ce soit lui, que ce soit un autre, elle s'en fiche. Hein. Mais bon, on voyait qu'elle était, elle avait bien étudié son coup, parce qu'elle elle montrait pas de... Elle roulait pas les yeux, elle faisait pas... Et le bonhomme essayait ses deux nouvelles paires de chaussures, il marmonnait, il marchait, se regardait dans le miroir, il sautait sur un pied, un casse-pied, fini. Finalement, tout à coup, je me suis aperçu, c'était un magasin, il y avait un endroit pour les femmes, un endroit pour les hommes. D'un coup, il s'en va dans l'endroit pour les femmes et il demande à sa femme son avis. Alors la femme, mais attends, j'ai pas vu les autres et tout. Alors, oh là, je lui demande, on n'est pas fini, on est encore là demain. Mais comme j'aime bien ce magasin, c'est là que je voulais acheter des chaussures. Donc je restais, donc voilà. Et je voyais que cet homme, en quelque sorte, il éprouvait une espèce de paralysie parce qu'il se trouvait devant tous ses choix. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Pas seulement quand ils achètent leurs chaussures, hein, mais souvent. Et alors, ils s'interrogent, ils hésitent, ils tergiversent. C'est un drôle de mot à dire, ça, tergiverser. Ils tergiversent. C'est difficile à dire. J'essaye encore une fois. Ils tergiversent, j'arrive. Ils passent, ils repassent, et puis ils recueillent l'avis des autres, et puis voilà, et puis enfin... Ils hésitent encore un petit peu, et puis finalement, bon, il s'est quand même décidé, à un moment donné, il s'est décidé, il est passé à la caisse. Et puis, sa femme l'a rejoint, elle n'a rien acheté, elle. Et puis, j'entendais, j'étais pas très loin, j'entendais, je me demande si j'aurais pas dû prendre plutôt les Italiennes, parce qu'elles avaient des talonnettes, et puis, en fait, elles sont plus chères, celles que je viens de prendre là, je me demande. Puis la vendeuse, elle s'est mise à le rassurer, hein, en lui disant, mais vous inquiétez pas, vous allez être satisfait, au bout d'un moment, vous allez marcher avec, etc. Vous avez fait une bonne affaire, monsieur, vraiment, et puis voilà, là, hein. Et puis ils sont partis. Alors, c'était à moi, c'était super, donc elle m'a apporté les deux paires de chaussures que j'avais vues dans la vitrine, je les ai essayées les deux, j'ai pris celle que je voulais, c'était rapide, c'était, voilà, parce que je savais ce que je voulais. J'ai réglé l'affaire, et puis je suis sorti, je marche, mais je sais pas moi... 50 mètres, je me trouve au coin de la rue et je les vois les deux, le bonhomme et la bonne femme, avec le carton de chaussures ouvert, et ils étaient en train de discuter. Ils étaient torturés par l'idée d'avoir fait peut-être une erreur, et je les ai croisés, ils ont discuté vraiment. Alors le Seigneur m'a donné une idée, il m'a dit, tu vois, il y a beaucoup de mes enfants quand même qui sont comme ça. Quel genre d'individu, à votre avis, a le plus de chances de commettre d'erreurs ? Celui qui hésite ou celui qui sait se décider ? Eh bien, mes frères et sœurs, il n'y a aucun doute là-dessus. L'expérience le prouve. Celui qui décide rapidement, il est en fin de compte celui qui a le moins à se repentir de ses décisions. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce qu'il se veut. Il sait ce qu'il veut. Vendredi, je vous parlais de savoir. Hein, Paul a dit, je ne savais pas. David dit, je sais, etc. Et j'ai développé cette idée de savoir. Eh bien, savoir ce qu'on se veut, savoir ce qu'on veut, c'est à la base de la foi. En fait, c'est à la base de tout. Savoir ce qu'on veut. Un chrétien qui est rapide dans ses décisions, qui décide rapidement, il n'a pas des décisions décousues, qui prend un petit bonheur. Mais il a des décisions qui interviennent par référence à un plan d'ensemble. Il est entier, il est intègre, il fait un tout lui-même. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a un choix, et puis sa décision et lui-même, tout ça, ça concorde. Il ne va pas acheter des chaussures jaunes parce qu'il sait que tous ses pantalons sont verts, et ça ne va pas. Vous voyez, il y a un ensemble, c'est pas que pour les chaussures, mais c'est un bon exemple. Hein. Un chrétien, il fait partie d'un grand plan, mes frères et sœurs, un plan d'ensemble. Et le fait de faire partie d'un plan d'ensemble, ça élimine déjà un large secteur de solutions qui sont possibles, qui sont concevables, mais qui ne cadrent pas dans l'ensemble. Est-ce que vous me suivez ? Qui ne cadrent pas avec la direction déjà prise, qui ne cadrent pas avec les engagements déjà pris. Donc ça élimine déjà beaucoup d'hésitation. Et mes frères et sœurs, en devenant chrétiens, on a fait une alliance avec Dieu et on a pris conscience des objectifs précis de Dieu qu'on trouve dans la Bible. Alors, nous avons donc assigné un objectif à notre existence. Nous sommes entrés dans ce cadre et ça élimine tout ce qui n'est pas dans le cadre. C'est une décision. Nous pouvons décider plus facilement, nous pouvons décider plus rapidement que lorsqu'on était au hasard dans les ténèbres où on marchait à tâtons. La Bible dit qu'avant, on marchait à tâtons. Tout ce qu'on faisait, c'était à tâtons, on ne savait pas. Mes frères et sœurs, nos décisions présentes, elles sont toujours fonction d'une décision passée, d'une prise de position, d'un engagement dans un certain cadre. Et nous sommes dans le cadre de Dieu, de son plan d'ensemble. Nous connaissons son plan. Ainsi, la foi, elle est toujours prête à se manifester promptement. L'homme, la femme de foi est toujours prêt à agir sans hésiter et il se fatigue moins et il a moins de stress et il n'est pas torturé et puis ça va beaucoup mieux. C'est reposant. La foi, j'ai dit, c'est reposant. Vivre par la foi, et les gens qui se plaignent, vous savez, ils ne se plaignent pas, mais c'est une façon de dire, vous savez, moi je vis par la foi. L'air de dire, c'est horrible. Mais non, c'est le plus reposant possible, c'est de vivre par la foi. Parce qu'on fait totalement confiance en Dieu, parce que nous sommes dans le cadre, et nous savons qu'il prend soin de ceux qui sont dans ce cadre. Oui ou non? Oui. Vous savez, on peut se noyer dans toutes sortes d'activités, ou alors on peut expédier rapidement des activités, en se décidant rapidement. J'ai développé ça. Il nous faut savoir que Dieu, il nous faut croire que Dieu nous dirige. Si on le croit, nos décisions, ça va beaucoup plus vite. On est beaucoup plus paisible. On peut prendre beaucoup plus de décisions, ne serait-ce que dans une journée, puisqu'on les prend rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, avant de se coucher le soir, qu'est-ce que vous faites? Vous réglez le réveil pour le lendemain matin, est-ce que vous êtes là, assis dans votre lit, avec votre bonnet de nuit, avec votre réveil, puis bon Seigneur, à quelle heure il faut-il que je mette ce réveil sonner? Voyons, mon Dieu, inspire-moi, comment, à quelle heure, tout ça. Mais non, on décide à quelle heure on doit être debout, parce qu'on le fait en se basant sur le plan d'ensemble de la journée qu'on sait qu'on va avoir, et puis sur nos expériences du passé. On sait très bien que si on se lève à 10 heures, on ne va jamais pouvoir être au boulot à l'heure. Oui ou non? Voilà. On sait que certains, au mois d'août, c'est génial pour aller à Paris, on met à peine une heure, donc on peut se réveiller un peu plus tard, mais à partir du mois de septembre, vous avez vu, tous les gens, disons, sont de retour. Donc, il y a les embouteillages. Bon, on sait par rapport au passé, on a des expériences. On ne reste pas 2 heures à hésiter avec le réveil matin en main. Eh bien, si vous avez un plan d'ensemble pour votre journée, ou pour votre semaine, pour votre mois, pour votre année, pour votre vie, eh bien, vous allez réussir parce que vous allez prendre beaucoup de décisions. Celui qui n'a pas de plan d'ensemble, il va être hésitant tout le temps. Tout le temps. Voilà pourquoi il va perdre son temps. Il va perdre son temps. Hier soir, on parlait avec Lydie, Olivier et Dominique. Perdre son temps. Qu'est-ce qu'il va faire donc? Il va prendre peu de décisions puisqu'il perd son temps. Et c'est pendant le temps qu'on prend nos décisions. Est-ce que Ruth a hésité des heures? Non. Et pourtant, elle savait que c'était une décision qui allait bouleverser sa vie. Bouleverser sa vie. Elle allait changer de pays. Elle allait voir plus que des gens qu'elle ne connaît pas, à part sa belle-mère, qui était déjà âgée. Puis disons, dans la famille, ça dégommait, hein. Le mari, les deux fils, qui prouvaient qu'elle n'allait pas, elle aussi, faire la mauvaise farce de mourir au bout de 15 jours. Mais je crois qu'elle croyait en Dieu à cause du témoignage de Noémie et de son mari et de son comment on appelle, de son beau-frère et de son beau-père qu'elle avait connu. Alors elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'était décidé. Et cette femme a influencé toute l'histoire d'Israël. Sa décision a influencé toute l'histoire d'Israël. Elle n'était pas consciente. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle allait devenir l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère du roi David. Donc, Jésus était dans sa lignée. Mais elle avait trois choses essentielles qui étaient ancrées en elle. Et c'est ça que nous devons avoir, mes frères et sœurs, pour être sûrs de prendre des bonnes décisions. Premièrement, elle avait cette foi en Dieu, parce qu'elle avait vu un témoignage, quelque chose qui l'avait impressionnée. Ensuite, elle aimait sa belle-mère. Et puis ensuite, elle voulait lui être fidèle, parce qu'on peut aimer, puis être infidèle. Hein? Combien de chansons le disent? Et combien de gens le vivent? Car après tout, qu'elle vive au pays de Moab ou qu'elle vive en Israël, ça changeait quoi pour elle? Le matin, elle allait se lever, elle avait son petit boulot, à midi, elle mangeait, après-midi, elle retournait au boulot, le soir, elle mangeait, après, elle se couchait, que ce soit en Moab ou en Israël. Hein? D'accord? Ce qui l'a motivée, c'était sa belle-mère, la foi de sa belle-mère, la façon de se comporter de sa belle-mère. Et elle aimait ça. Elle trouvait ça bien. Elle trouvait ça mieux que la façon des gens de son pays, parce que vous savez, les gens de son pays vivent avec des dieux, et quand on ne vit pas avec le vrai Dieu, on a des comportements différents. Par exemple, quand je vais au Burkina, où je vois les gens qui sont animistes ou qui sont musulmans, ils ont des drôles de façons, ils ont d'autres comportements, parce qu'ils ont d'autres mentalités qui s'incrustent dans les gènes des gens de génération en génération, et ça fait qu'ils vivent dans le fatalisme, avec la peur, avec la jalousie, avec toutes sortes de choses, alors que dans les pays chrétiens, c'est autrement. Alors très souvent, il y a encore un frère, c'était Itiel l'autre jour, qui me disait, vous les blancs, vous avez commencé. Je dis, mais c'est pas parce qu'on est blanc, c'est parce qu'on est une culture judéo-chrétienne. Ça, c'est une grande bénédiction de Dieu. Mais ils peuvent l'avoir, ils n'ont qu'à accepter Jésus. Amen. C'est vrai. Donc, cette femme-là, elle a mesuré toutes les choses. Elle a vu ses limites. Elle s'est dit, bon, si je reste là à Moab, je suis veuve. Tout le monde me connaît, c'est la veuve. Bon, si je suis avec ma belle-mère, je recommence tout à zéro. C'est-à-dire que je suis super gentil belle-mère, je vais arriver dans un pays où personne ne me connaît. Je commence une vie vierge. Et je peux avoir une chance là-bas de me remarier peut-être. Vous comprenez? Tandis que quand on vit dans un coin, voilà, puis aller déménager, tout ça, toute seule. Elle préfère être avec sa belle-mère, elle l'aimait. L'amour. Alors elle a dit, j'y vais. Elle connaissait ses limites. Elle n'a pas mis très longtemps parce qu'elle les connaissait. Que fait un indécis, par contre? Eh bien, un indécis, supposons que Ruth soit indécise. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait sorti son calepin, et puis elle aurait pris note qu'elle avait une décision à prendre. C'est comme ça que font les indécis. Comme tous nos contemporains qui aujourd'hui se trouvent devant des tas de choix et qui sont très souvent encombrés par toutes sortes d'idées, de trucs à faire, de projets, mais qui laissent toujours les bonnes occasions passer parce qu'ils remettent au lendemain la décision en disant « Bon, j'ai cette décision, il faudra que j'y pense. J'y pense. Pourquoi demain? Pourquoi pas maintenant? Tu seras plus intelligent demain ?» Ensuite, ils pleurnichent. Oui, c'est la faute du gouvernement. Oui, c'est la conjoncture actuelle. C'est les gens. Je n'ai pas compris. Personne ne m'aime. Ben, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Les indécis, ce sont ceux qui ont oublié de se dire je ne serai pas plus intelligent demain. Autrement dit, autant prendre la décision aujourd'hui. Oui ou non? Ouais, ça me paraît limpide. Je ne serai pas plus intelligent demain. Quand je parle de Jésus aux gens, réfléchir à quoi? Tout ce qu'ils doivent savoir, je leur ai dit. Pourquoi? Au sujet de quoi ils vont réfléchir? À partir de quoi? Sur quelle base? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur dossier pour pouvoir réfléchir? Ce n'est pas vrai, ils ne réfléchissent pas. Simplement, ils ne veulent pas prendre de décision. Ils sont là. Voilà. Celui qui décide rapidement, il tourne sa foi dans le bon sens. Ce n'est pas qu'il ne réfléchit pas. Ce n'est pas qu'il se décide n'importe comment à faire n'importe quoi. C'est que déjà avant de se trouver devant un choix, il a déjà appris à se discipliner dans sa vie. Il a une vie de disciple. L'homme et la femme de foi, le disciple, il connaît ses limites. Et puis, il s'en impose, chaque fois qu'il se trouve devant un choix, il s'en est imposé une qu'il met en pratique. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, il a déjà fixé depuis longtemps que pour prendre une décision, il a 10 minutes. ou 5 ou un quart d'heure. Ça dépend là, pas de la décision à prendre, mais ça dépend de la personne, de son niveau d'élévation dans les choses de l'esprit, dans la clarté de la pensée, de la vue d'ensemble, du plan de Dieu, du plan de sa vie, de ce qu'il veut en faire. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu sais ce que tu veux? C'est ça qui est important. Si on ne sait pas, mais alors tous les jours, porter à tout vent de doctrine, toutes sortes d'émotions, un petit coin d'en haut, un petit coin d'en bas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut et on est au jour le jour, comme ça. On te propose ceci, et puis après on te propose cela, et puis encore ceci. Alors, l'homme spirituel, il se croit inspiré, il réfléchit, il se croit inspiré, et il décide, et il passe à la question suivante. L'autre, il est toujours en train de ruminer sur le même truc. Il fait une fixette. Mes frères et sœurs, sans décision rapide, on bloque le système. Si Ruth n'avait pas pris une décision rapide, où est-ce qu'il serait né? Comment il serait né David? Le grand roi David. Les grandes choses viennent au travers des gens qui prennent des décisions rapides. Mais pas dans n'importe... Vous avez bien compris. Il faut être disciple d'abord. La décision doit être rapide parce que le temps est limité. On ne peut pas perdre son temps. Alors comment agir? Eh bien, comme si vous ne pouviez pas perdre votre temps à tergiverser. Fixez-vous des limites, et fixez-vous des limites étroites. Pendant que la personne vous parle du projet que vous pourriez faire, dites, je me donne 10 minutes, si dans 10 minutes je n'ai pas la réponse, je vous donnerai une réponse négative. Pourquoi? Je vous explique. Écoutez bien. Si vous croyez ce que je vous dis là, si vous décidez à vous fixer un temps pour prendre des décisions, un temps très étroit, et que vous avez la foi que Dieu est avec vous, qu'il veut vous conduire dans les verts pâturages, qu'il veut le meilleur pour vous, que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, et que vous n'arrivez pas à prendre une décision dans le laps de temps fixé, c'est, je crois, je ne dis pas que c'est ainsi dit le Seigneur, mais je dis, je crois que c'est le signe que la décision négative, c'est la plus sage. Pourquoi? Parce que la décision positive, elle ne s'est pas imposée d'elle-même, parce qu'elle n'est pas, elle ne vous est pas apparue comme une évidence. C'est ça que les chrétiens appellent, parce qu'ils flappent spirituel. La paix du cœur. Vous comprenez? Ruth, elle aimait Naomi. Ruth, elle avait vu que le Dieu de Naomi était meilleur que les faux dieux de Moab. L'évidence était là. L'évidence était là. C'était tout. L'amour, la foi. Alors elle peut avoir une espérance que sa décision, ça allait marcher. L'amour, la foi, l'espérance. Trois choses ancrées. Elle ne s'est pas égarée dans les études. Elle n'a pas fait des études le prétexte pour rien faire ou le prétexte pour ajourner sa décision. Elle est allée droit à l'étude essentielle de la chose. Elle a l'étude essentielle qui commande réellement la décision. Parce que c'est ce qui est essentiel qui commande la décision. On sait bien qu'il y aura toujours des détails, il y aura toujours des trucs qui ne marcheront pas, il y aura toujours des trucs difficiles. Et alors les gens qui sont indécis, aussitôt qu'il y a un petit truc difficile qui arrive, ils disent « Oh, mais je n'étais peut-être pas dans la volonté de Dieu, je n'ai peut-être pas pris la bonne décision. Seigneur, pardonne-moi. » Puis alors ils se culpabilisent, puis ils ne sont pas bien. N'étudiez pas interminablement les points secondaires, mes frères et sœurs. Maintenant, la personne qui s'est décidée, qui sait décider, du verbe savoir, et la personne indécise, les deux là, elles ne parviendront jamais à éliminer totalement les erreurs. Jamais. Que celui qui veut jamais se tromper ne prenne jamais de décision. Vous entrez dans un magasin de chaussures, oh, je ne prends pas de décision, et vous repartez sans chaussures, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous être trompé. Même vous n'allez même pas dans le magasin de chaussures parce que vous avez choisi de ne pas perdre votre temps à aller dans un magasin de chaussures, comme ça vous voyez, c'est complètement ridicule. Il y a le risque de la foi toujours, des risques dans l'amour toujours, parce que l'amour c'est une histoire à deux places au moins. Ce qui compte, c'est de réussir, mais celui qui ne prend pas de décision, il peut compter qu'il ne réussira jamais. Celui qui veut réussir, il doit prendre des décisions. Et l'expérience aidant, les erreurs, elles vont s'éliminer d'elles-mêmes. L'expérience aidant. On connaissait un frère, tous là, à peu près, qui disait toujours « exécution ». Vous vous rappelez ? Exécution. Il avait raison. Après une décision, exécution. Il avait raison. Bon, il a fait des grandes erreurs. Bon, c'est vrai, il a fait des erreurs. Mais pourquoi ? Analysez, regardez, pourquoi il a fait des erreurs ? Parce que l'amour n'était pas ce qui l'animait. Il le disait lui-même. Je vous aime pas. Vous vous rappelez qu'il nous disait ça ? Voilà. Il le disait lui-même. Il n'empêche que sa formule décision-exécution, c'est une très bonne formule, très juste. Maintenant, sur quoi elle était basée ? Il n'y avait pas l'amour, il y avait peut-être la foi, mais il n'y avait pas l'amour. Ça ne peut pas jouer. Il faut qu'il y ait les trois, la foi, l'amour et l'espérance. Il faut toujours. Rien n'est plus néfaste, mes frères et sœurs, que de se poser toujours des questions du genre « Ai-je bien fait de faire ce choix ?» Non, désir, décision, exécution. Est-ce que j'aurais pas meilleur temps de faire marche arrière ? Non, exécution. Il faut, si on pense comme ça, toujours se torturer au sujet des décisions qu'on a prises, eh bien on freine et on gêne l'exécution des décisions qu'on a prises. Alors vous allez me dire, mais Michel, là tu nous parles de décision, c'est bizarre parce que tu nous parles toujours qu'il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, tu nous dis toujours, et je répète ce matin, le libre arbitre c'est l'illusion de ceux qui n'ont pas le pouvoir de la foi. Avec la foi, on agit. On décide et on agit. Pas n'importe comment. En fonction du grand plan. Quand vous êtes dans le grand plan, est-ce que vous avez le choix ? Dans le grand plan de Dieu, selon les Écritures, mais vous êtes coincé, vous n'avez même pas le choix. Bon, pour les chaussures jaunes ouvertes, peut-être, oui, et encore. Mes frères et sœurs, nous avons le pouvoir de la foi, Dieu nous l'a donné, à nous, ses enfants. C'est un pouvoir qui est énergique. Nous mettons donc de l'énergie dans nos décisions, puis ensuite nous consacrons toute notre énergie sur l'exécution et non pas sur le fait de penser, est-ce que c'est la décision qu'on a prise ? Non, l'énergie on la passe de la décision, on prend énergiquement une décision, puis ensuite on fait énergiquement ce qu'on a décidé. Sinon l'énergie elle est gaspillée, et rappelez-vous l'énergie c'est la lumière c'est la vie c'est Jésus. On est en train d'utiliser le nom de Jésus en vain, on est en train de faire quelque chose de mal. Énergie, lumière, vie, tout ça, c'est synonyme, bibliquement parlant. Et c'est ce que Ruth a fait. Et où est-ce que ça l'a emmené ? À devenir l'arrière-arrière-arrière-grand-mère du roi David. Elle n'avait pas conscience, pendant qu'elle était en train de glaner dans les champs, pour survivre et pour faire survivre sa belle-mère, quand elles se sont retrouvées sans rien du tout là-bas en Israël. Mais Dieu agit avec ceux qui agissent. Elle avait commencé à faire le premier pas, maintenant il fallait faire les autres. Il fallait commencer à glaner. Et comme ci, et comme ça, et comme ci, et comme ça. Et finalement, elle rencontre l'homme de sa vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Elle a rencontré l'homme de sa vie. Comment il s'appelait ?
Oh. Ça commence par un B.
Boaz.
Voilà, Boaz. Alors, est-ce que je suis imprudent d'enseigner ces choses ? En disant ça sur le net, en envoyant ça dans le monde entier, on pourrait dire oui, il va y avoir des gens, n'est-ce pas, inconscients, qui vont mal comprendre, qui vont tordre ce que Michel a dit, et ils vont se fourvoyer, ils vont prendre des décisions n'importe comment, avec une foi mal basée, c'est dangereux, c'est des choses à ne pas dire, etc. C'est très possible qu'il y ait des gens un peu bébêtes qui écoutent et puis qui fassent n'importe quoi suite à cette prédication. C'est très possible. Ils vont le faire de la même manière qu'ils le font et qu'ils l'ont toujours fait avec ce que l'apôtre Paul a écrit. Paul, il ne s'est pas posé mille dans la question, il avait quelque chose à dire, il l'a dit. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Regardons par exemple ce qu'il dit dans Philippiens 2, 13, 16. Philippiens 2, 13, 16. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il veut que tu te gourres, tu vas te gourer, mon cher. Il veut que tu te trompes, tu vas te tromper. C'est selon son bon plaisir. C'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire. Mais tu dis aussi par ailleurs, toutes choses concourent ensemble à ton bien puisque tu m'aimes. Alors ne t'inquiète pas, tu as choisi des chaussures vertes, mais c'est moi qui t'ai donné le vouloir et c'est moi qui t'ai dit exécution. Alors crois avec tes chaussures vertes, balade-toi, puis bon voilà, si elles te font mal aux pieds, il y a une raison. Et tu vas comprendre et tu vas grandir. Est-ce que vous avez cette sorte de foi-là? Ensuite il dit, je reprends, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous comprenez maintenant ce que je viens de vous dire? Tout ce que je viens de vous dire, c'est ça. C'est ce que Paul dit là. Et pourquoi est-ce qu'on doit tout faire sans murmure ni hésitation? Pour pouvoir être des gens irréprochables et purs. Oh! Ça veut dire que quand on hésite et quand on murmure et quand on tergiverse, on est rempli d'impuretés qui grincent et qui enrayent les rouages. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Voilà ce que Paul disait. Et on tordait le sens de ces écritures. Et on a monté des trucs dessus. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui tout ce que le pauvre apôtre Paul... Mais c'est la vérité. Et la vérité, elle touche le cœur de ceux qui aiment la vérité. Si vous aimez la vérité et si vous n'êtes pas sage, eh ben dites Seigneur, voilà, j'aime la vérité, mais je ne suis pas très sage. Ben demandez la sagesse à Dieu, il vous la donnera sans vous faire de reproches et il va vous élever au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors peut-être vous aviez des décisions à prendre. Vous avez compris ce qu'il faut faire. Il faut prendre la décision et exécution. Il y a un mot sur Internet, c'est « next ». Seigneur Jésus, veuille nous bénir, nous aider à être des gens vraiment spirituels, d'amour, de foi et d'espérance. Merci Jésus de nous aider à comprendre ce caractère divin qui était en Ruth, pourtant ce n'était pas une juive. Et tu l'as béni comme ça en lui donnant un caractère si merveilleux. Merci mon Dieu, parce que nous ne sommes pas nous non plus des gens extraordinaires, mais tu as mis en nous cette pensée merveilleuse pour pouvoir nous aider à prendre des bonnes décisions, à faire les choses en croyant qu'elles nous sont inspirées par toi. Merci Jésus, sois glorifié notre Dieu. Amen. Amen.